Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un beau soleil dehors et un beau soleil dans nos cœurs parce que nous allons parler avec mon invité du jour, Jean Pruvot, de choses tout à fait réjouissantes. Bonjour Jean.
Bonjour Martine.
Alors avec Jean, on va aborder un ouvrage tout nouveau paru il y a quelques jours et dans la collection que nous aimons beaucoup ici à Antiquissimo, La vie des classiques, les petits latins, collection dirigée par Laure de Chantal, avec un nombre de titres impressionnants. Je vais juste en citer les trois derniers. Dives ut croesus atque alia proverbia a graecae et romae que historia sumpta. Ça fait peur? Non, pas du tout. Ça veut dire riche comme Crésus et d'autres proverbes tirés de l'histoire gréco-romaine. Donc c'est un petit livre paru en août 2025 et qui fait la part belle à tous les proverbes qui nourrissent notre quotidien encore aujourd'hui. Le deuxième volume que je voudrais signaler, c'est De Indomita Antigona, Antigone l'insoumise, paru en septembre 2025. Dans cette collection, on aime raviver les vieilles histoires, les vieux mythes, mais pour montrer à quel point ils sont modernes. Paru en septembre 2025 aussi et qui parle d'Alexandre, la naissance d'un roi, To Basileus Genos. Et donc, pour rappeler que dans cette collection aussi, tantôt on va du côté des latins, tantôt du côté des grecs, pour montrer à quel point toutes ces histoires, tout ce vocabulaire engrangé nourrit, je l'ai dit et je le répète, notre modernité. Alors justement, on est en plein dans le sujet avec Jean Pruvot, qui en ce mois d'octobre fait paraître 100 nouveaux mots latins pour bien écrire 1000 mots français. Alors, c'est la suite d'un volume dont nous avions parlé, qui est paru il y a un an, et qui est paru en septembre 2024, et qui s'appelait 100 mots latins. Donc, c'est logique qu'aujourd'hui, on parle de 100 nouveaux mots latins, puisque c'est le deuxième tome. Vous n'avez pas chômé hein, en un an, hein?
Ben non, écoutez, ben, en principe, quand on se passionne pour le latin ou le grec, c'est qu'on est travailleur aussi, mais en même temps joyeux. Bon,
Exactement.
J'ai poursuivi. Voilà.
Alors, Jean, nous le connaissons, donc je ne vais pas repasser par le menu de sa longue fiche biographique. Je vais rappeler simplement que c'est un professeur d'université émérite, un chercheur, un spécialiste de la langue. Je dirais familièrement un pro des dictionnaires parce qu'il en a publié beaucoup, beaucoup. Et donc, nous voilà avec ce deuxième volume ces chiffres, ces nombres qui apparaissent, 100 pour 1000, la proportion, elle est assez énorme. Je signale quand même, parce que je l'ai vu en préparant l'émission, qu'il y a aussi un manuel numérique à usage pédagogique à partir de votre travail.
Oui, alors je le découvre un peu avec vous, mais c'est une chose formidable. On voit bien qu'aujourd'hui, quand on a une information, il faut aussi qu'elle puisse être accessible facilement numériquement. Hein. Ça fait partie.
Voilà, et
de,
donc tous les professeurs.
Bon, on est aussi en latin toujours.
Voilà, tous les professeurs vont pouvoir se servir de ce manuel numérique. Et je rappelle d'ailleurs que là, avec ces deux volumes, les 100 mots et les 100 nouveaux mots, l'objectif, puisqu'il y a à chaque fois des niveaux, hein, c'est débutant, c'est-à-dire que ça s'adresse vraiment à tout le monde et je dirais pas qu'aux débutants, vraiment à tous les niveaux. Donc j'ai commencé avec des chiffres et ben je continue. Hein. C'est quand même un livre qui ne coûte que 11,50 €. Il faut quand même le signaler parce que pour 11,50 €, on en a vraiment, vraiment pour son argent. Avec cette proportion de 100 pour 1000, on est dans la loi des bonnes séries. Et d'ailleurs, dans la préface, vous commencez avec ce mot série en rappelant que, alors il est très à la mode aujourd'hui, mais en rappelant qu'il a bien sûr une origine latine, le mot serere qui veut dire enchaîner, définit bien ensuite le mot série qui nous parle d'une suite ordonnée, d'un enchaînement logique. Et c'est bien ce qui se passe quand on fait de l'étymologie avec ce voyage lexical que nous allons entreprendre, n'est-ce pas ?
Oui, bien sûr. En fait, c'est un enchaînement permanent. On ne s'en rend pas compte, mais on part d'un mot latin. Alors, nous-mêmes, vous évoquiez un public qui pouvait ne pas être uniquement des élèves, mais aussi des parents, des adultes, qui m'ont écrit et m'ont dit, c'est extraordinaire, c'est que je ne faisais pas le rapport, alors je pense au premier volume, entre nonchalant et puis calor, entre câliné et calor, entre finalement peu me chaud. Expression archaïque et calor. Donc tout ça ne manque pas de charme. Et en même temps, ça crée des familles. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi très important. C'est cette harmonie à retrouver grâce à nos souches latines et à l'immense famille qui en est découlée.
Oui, c'est impressionnant. Je parlais des chiffres et des proportions, mais c'est vraiment faramineux de voir qu'à partir d'une racine, on essaime vraiment sans compter à de nombreux, nombreux termes français qui partent dans tous les sens. Je parle que du français, mais on pourrait parler de l'anglais, on pourrait parler de toutes les langues. On en parlera un petit peu tout à l'heure avec une entrée précisément. Là, dans votre livre, il y a 54 entrées. Je les ai comptées hein, parce que au départ, on parlait d'une cinquantaine, mais il y en a un petit peu plus. Il y a un index à la fin de mots français colossal, justement, qui montre bien que de ces 54 entrées, on arrive à un panel extraordinaire. Et il y a une table des encadrés, parce que comme dans le livre précédent, dans le tome précédent, vous ne vous contentez pas de partir d'une racine et d'essaimer dans le français, mais il y a à chaque fois un petit encadré thématique et des citations, des proverbes en latin. Chaque fois, c'est la même chose.
Oui, enfin c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire que bien entendu on va trouver la racine, par exemple lapso glissé, mais en même temps il y a tous ces lapsus qui existent aujourd'hui dans finalement la communication. Alors il y avait bien le lapsus linguae de la langue, le lapsus calami de la plume, mais on se retrouve aussi avec le lapsus clavis qui vient d'être inventé. C'est celui qu'on fait sur nos claviers en se trompant de touche, mais avec un sens. Et donc tout ça méritait d'être mis en valeur, comme derrière in, avec in
Oui,
silico, par exemple.
voilà, on va en parler dans un tout petit instant, mais là je signale, puisque vous avez abordé la collection des lapsus que j'ai adoré, les lapsus anciens et modernes, eh bien que là on est à la page 55 de votre livre et une entrée vraiment passionnante. Donc un voyage lexical qu'on va ici entreprendre, vous et moi, en picorant dans ce livre pour donner la béquée à nos auditeurs qui vont s'empresser ensuite d'aller chercher plus précisément. Alors moi je vais évidemment, pas parler de tout, ça n'aurait pas d'intérêt, mais montrer un petit peu comment ça fonctionne. Avec le mot linum, dont vous parlez déjà dans la préface, le lin, hein, c'est le mot français
Oui,
qui en
voilà.
découle directement, la plante. Mais vous montrez que, alors je vais vous ensuite vous laisser décliner, c'est le cas de le dire, à propos de linum, mais c'est faramineux. Je cite ce que vous avez commencé, ce que j'ai commencé de lire, borderline, collimateur, crinoline, eyeliner, hotline, linceul, lingette, pipeline, linoléum, j'en passe et des meilleurs. Tout ça, c'est à partir du mot lin dont je vous laisse un tout petit peu parler.
Oui, alors ce qui est merveilleux, c'est que un jour, j'ai décidé de parler du mot lin en français. Et puis, c'est une plante que je connais mal. Je me suis mis à la regarder et j'ai constaté qu'effectivement, c'était une tige assez haute de 60 cm, très droite. Et puis, j'avais déjà passé de l'huile de lin sur des meubles et que c'était aussi une huile qui était tirée de sa graine. Et d'un seul coup, eh bien, je me suis aperçu que du latin était venu, mais 40 mots, plus de 40 mots. Et vous en avez donné quelques-uns. Et tout simplement parce que déjà les Romains disaient que c'était une plante magnifique et qui leur avait permis de conquérir toute la Méditerranée. Alors, je n'ai pas bien compris cela, mais oui, parce qu'elle est voile de lin,
Oui.
en tissu de lin. Et alors, c'est vrai que quand on prend ce mot, alors il y a d'abord l'idée de ligne. Alors, lignée, lignage, surlignée, soulignée. Vous évoquiez l'anglais tout à l'heure, mais le eyeliner, etc. Bon, en font partie, y compris le pipeline. Tout ça, c'est autour de la ligne. L'alinéa, repris tel quel au latin. Puis le collimateur, avec une petite déformation, mais qui vient de la mise en ligne, de tirer. Alors, ça, c'est une partie du mot lin. Puis il y a l'autre partie, c'est le linge. Alors là, je n'avais pas du tout fait le rapport entre lin et linge. Et très vite, alors évidemment, lingette, lingère, et on se retrouve avec une série de mots impressionnants, lave-linge, enfin, jusqu'au plus moderne. Et puis il y a aussi l'huile qu'on va tirer, et on reprend alors le latin avec le linoléum, produit récent, enfin qui a un peu plus d'un demi-siècle maintenant, mais qui correspond avec donc de l'huile de lin, bah, ce revêtement qu'on met sur le sol, d'où la linogravure. Et alors, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que ça manque pas de charme. On a tous été traités parfois gentiment par nos enseignants, et on l'a fait avec nos élèves parfois en disant, et nos enfants, en les traitant de têtes de linotte,
Ah
parce
oui, j'ai
qu'ils ont
adoré ce que
dit
vous
quelque
écrivez
chose.
là-dessus, oui.
Et en fait, effectivement, j'avais absolument pas fait le rapport avec le lin, mais c'est l'oiseau qui aime les linettes, linette étant la graine de lin, et c'est un oiseau qui n'est pas très réputé, disons pour sa mémoire, qui est capable de mettre son nid en plein milieu d'un champ sans penser aux prédateurs. Donc voilà d'où nous vient même la tête de linotte. Alors tout ça c'est un charme fou. Et une racine, linum, et plus de 40 mots, et sans doute que l'aventure n'est pas terminée. Donc,
Oui,
on a là quand même
et c'est ça qui est
l'illustration.
faramineux, c'est que ça, comme vous dites, l'aventure continue. Alors, dans l'Antiquité, il y avait déjà deux lignes, si j'ose dire, la ligne de pêche et la ligne d'écriture, hein, deux grandes directions.
Oui.
Et alors, à partir de ça, ça foisonne et ça n'est pas fini, comme vous l'avez dit.
Oui, alors, parfois dans ce livre, j'ai été conduit à être. Aussi synthétique sur des mots très simples comme in en
Oui.
latin, bien sûr. Et en partant de ce in, on regarde rapidement dans un dictionnaire, et pas seulement les pages roses du Petit Larousse, et on s'aperçoit qu'il y a un nombre énorme de locutions latines qui sont tirées de ce in, enfin en tout cas qui sont mêlées. Alors je ne sais pas, je ne vais pas les traduire parce qu'on les devine, mais in absentia, in praesentia, in abstracto, in concreto, in extenso, on a tous utilisé ça, in fine, in extremis, in memoriam, et puis alors après il y en a d'autres, et c'est là où c'est intéressant, je trouve. Qui ne sont pas toujours très clairs pour nos élèves et pour nous-mêmes. On a parfois été obligés quand même d'aller rechercher. Alors, quand on est latiniste, évidemment, in rerum natura, dans la nature des choses, bon, ça ne pose pas de problème particulier. Mais, par exemple, in media res, c'est-à-dire au milieu des choses,
Oui.
bon, on ne le rencontre pas toujours, mais ça c'est tiré de l'art poétique d'Horace, d'ailleurs, et c'est le fait de placer d'emblée le lecteur ou le spectateur dans l'action, au milieu des choses,
Par
et
exemple, dans
ça se
la
dit, bon,
pièce de
on est
théâtre,
là.
là, oui.
Voilà, c'est ça, on commence au milieu de l'histoire, en fait. Et ça, bon, je trouve que ça montre à quel point aussi on est toujours proche de la littérature, on est professeur de lettres, professeur de latin ou de grec et de latin grec, mais on est aussi professeur, finalement, de littérature et de cinéma. Alors je pense aussi parfois, bon, Brassens aidant, on a tous entendu in naturalibus,
Oui.
bon, au naturel, sous-entendu tout nu, mais parfois aussi, je pense à in partibus, bon, on voit bien ce que ça veut dire, mais on ne comprend pas très bien, et c'est le latin ecclésiastique in partibus,
Oui.
Fédilium, qui signifie dans les régions des infidèles, dans la partie des infidèles, c'est ceux qui exerçaient en pays non chrétien et qui étaient donc un ministre du culte, mais sans fonction réelle. Et voilà pourquoi on peut être un ministre in partibus, c'est-à-dire sans fonction réelle, ce qui n'empêche pas d'avoir de l'importance. Donc, alors il y a aussi,
Et vous
alors là,
déclinez
il y a
aussi
l'orthographe.
tout les formats des livres aussi, hein,
Oui,
qui proviennent de
voilà.
là.
Bah, merci. Voilà. Alors là, pour moi, ça a d'ailleurs été aussi instructif. Vous savez, quand on fait un livre, on en profite pour se dire, Manu, mais c'est pas logique ça. Et je pense au trait d'union parce qu'il y a un peu un problème d'orthographe aussi. Et donc, bon, in plano, c'est-à-dire la feuille dans son plan entier, c'est ces énormes, c'est souvent d'ailleurs des atlas d'autrefois,
Oui.
on a une seule feuille d'impression. Bon, après, il y a l'in folio, on l'a plié en deux, Et donc, ça, c'est nos gros dictionnaires qui font 30 centimètres de haut et même davantage. Puis à l'in-quarto, on a plié la feuille en quatre, elle a été imprimée en quatre parties, puis repliée. Et donc, on se retrouve avec un type d'ouvrage qui est un peu le style de nos dictionnaires Robert ou Larousse, j'entends les grands dictionnaires. In-octavo, ben c'est chez Gallimard, on a je ne sais combien d'in-octavos. Et c'est là où l'orthographe intervient, parce que c'est in tiret 8 avec ce petit
Oui.
zéro. Et là, je me souviens d'une de mes étudiantes qui était très, très, très bonne étudiante, émouvante. On était en train de noter des choses. Et elle me dit, mais c'est drôle, il y a toujours in 4 avec 0, in 8. Est-ce qu'ils ont été mis dans le 8e arrondissement? Et je dis, non, c'est pas ça. C'est
Mais c'est
pas
vrai
ça.
que quand on est néophyte et quand on se confronte au vocabulaire des bibliothèques, on est un
Oui,
peu
c'est
perplexe
ça.
au début, c'est vrai. Et donc, il nous
C'est
fallait
ça.
cette
Et alors, du coup,
explication.
ça entraîne que in 12, il n'y a pas de petit zéro. Mais in quarto, il y a un 4 plus un petit zéro. Alors bon, tout ça manque pas de charme, on apprend des choses.
Et alors,
Et
dans
puis, il y a
cette
les...
entrée passionnante de In, donc c'est à la page 27, vous mentionnez aussi qu'on arrive même à ancrer des entrées, des proverbes, des expressions modernes. Et vous dites que, par exemple, beaucoup de gens pensent que in petto, c'est du latin, pas du tout. In silico, on pourrait penser que c'est vieux comme le monde, et pas du tout.
Ah oui, effectivement, on s'aperçoit que le latin a une influence, soit parce qu'on attribue, dès que ça se termine en o, au latin le mot, comme in petto,
Alors que
soit
c'est de
alors,
l'italien, in petto, hein, c'est ça.
oui, voilà, qui veut dire l'avoir dans le cœur, en fait. Mais on l'utilise aussi, on parlait du numérique tout à l'heure,
Oui.
qui a sur ses bienfaits, et par exemple, la récente expression in silico.
Voilà.
Alors, faut avoir en tête que la silice est un peu partout dans nos ordinateurs. C'est par des calculs complexes informatisés, hein, donc sur des modèles informatiques. Donc voilà comment on
Donc
se
ça, c'est une
retrouve avec
création
un code.
moderne à partir de souches anciennes, si on veut.
Oui, c'est ça, c'est ça. Ce qui
Et...
n'empêche pas qu'on a, si vous voulez, tout le monde connaît une vino veritas. Je ne sais
Ouais.
pas si c'est bien ou si, hélas, on le connaît, puisque dans le fond, ce n'est pas forcément un exemple à suivre. Mais in cauda venenum, là, on est là sur un registre un peu plus fort que peuvent utiliser nos élèves, dans la queue, le venin. Et puis, il y en a d'autres, bon, moins connus, comme in medio stat virtus. Au milieu se tient la vertu. C'est vrai que dans notre siècle qui est parfois excessif, c'est une citation latine qui serait assez intéressante pour le sens de la nuance. Hein.
Oui, qu'on n'a pas toujours. Alors, on va marquer une
Non.
petite pause musicale et après, on se mettra à table puisqu'on
Ah
parlera
oui.
de Mens et Mensa. À tout de suite, Jean.
Endormi sous la mer qui saigne sur Narbonne, de mes yeux fatigués pleurent des sables d'Olonne. Je me dis le français est une langue qui résonne. Je me dis le français est une langue qui résonne. Langue d'ocre du nord, les accents s'époumonnent. Dans ma tête versée, mon pays se crayonne. Je me dis le français est une langue qui résonne. Je me dis le français est une langue qui résonne. Assis près de Calais, dessous les lames bretonnes, je regarde arriver les vagues anglo-saxonnes. Tous mes mots vieux français éclatent et bouillonnent. Tous mes mots vieux français éclatent et bouillonnent. Si plages et forêts s'asphaltent sur carbone, si les ailes collées, les oiseaux abandonnent. Moi qui me crois beau français, je sens que je décore. De mes mots censurés, que Villon me pardonne. Je me dis le français est une langue qui résonne. Je me dis le français est une langue qui résonne.
C'est Antiquissimo, deuxième partie, avec Jean Prévost. Et nous n'avons pas, loin s'en faut, parlé de la moitié du livre, pas du tout. Nous en sommes loin et on va continuer notre petit vagabondage, notre voyage lexical. Et avec Jean Prévost, auteur de 100 nouveaux mots latins pour bien écrire 1000 mots français, j'aurais envie de lui demander de commenter les deux mots qu'il a associés et qui pourtant ne sont pas associables, si j'ose m'exprimer ainsi, mens et mensa.
Oui, alors, ils ne sont pas associables, mais c'est vrai qu'ils sont d'une proximité dans la réalité. Alors, on explique, évidemment, mens mentis, c'est la faculté intellectuelle, l'intelligence, qui nous a donné effectivement le fait de rappeler à l'esprit quelque chose, d'où la mentionis, bon, la mention, on voit bien la mention de quelque chose, mais aussi celle d'un jury qui nous pousse vers la mention très bien, si on peut. Mentalis, ben, on a des feuilletons avec le mentalis, hein,
oui,
qui rappelle que c'est quelqu'un qui est capable de deviner un peu ce que l'autre pense. Et puis le calcul mental, l'âge mental, on voit que ce mot est quand même très fort, surtout qu'il y en a d'autres dérivés, parfois on n'en fait pas le lien, comme démence, qui est privé de raison, avec donc le préfixe « dé » devant, et quelque chose qui est très étonnant, et là je m'en souvenais plus vraiment, mais c'est que « mentir », en mensonge, vient de là. Parce que dans le fond, la faculté de penser suppose, quand on ment, quelque chose de très fort. Le menteur est quelqu'un qui a une faculté de créer une fiction, et au départ, ça n'était pas forcément si négatif, d'où le menteur, la menteuse, la menterie et tous ces mots.
Et oui,
et
parce
puis,
que ce n'est pas
bien
forcément
sûr,
facile de mentir. Hein. C'est
non,
un art.
Non. C'est même comme ça qu'on se fait piéger le plus. Donc, j'essaie de ne jamais mentir. Bon. Sauf aux cartes, il faut quand même jouer de temps en temps. Non pas en mentant, mais en faisant semblant.
En bluffant.
Voilà, en bluffant. Et alors, tout ça, bon, nous entraîne vers la fameuse phrase « mens sana in corpore sano », un esprit sain dans un corps sain, hein, qui est tiré donc de la dixième satire que Juvénal a écrit entre 90 et moins 127. Alors, on croit qu'on est assez loin de l'autre mot qui est « mensa ». « Mensa », c'est la table. Alors, on se dit, bon, ça ressemble. Mais justement, même les Romains, en latin, voyaient qu'il y avait une ressemblance.
Et oui.
Et c'est ce mensa qui donne la table et qui a donné le commensal, celui qui partage la table avec nous, qui a donné même, actuellement, avec l'écologie, l'idée du commensalisme, c'est-à-dire le fait d'animaux qui, ensemble, trouvent une sorte de terrain d'entente, comme certains scarabées qui vivent avec les fourmis, à la limite les pigeons, et donc les moineaux ont aussi une forme de commensalisme. Cette commensalité, donc, ça reste très moderne. Et alors, là, on a mensa non ens sapiens, sapientem te esse opportet quia sapientir, nomen abes, c'est-à-dire table, tu n'es pas sage, il faudrait que tu le sois puisque tu portes le nom de sage, écrit Plaute dans la comédie donc de Courcouliens. Alors, on comprend qu'effectivement, la table, c'est à la fois le lieu de l'intelligence, de l'esprit, mens, oui, on y travaille. Là, actuellement, je suis sur une table, je ne travaille pas, j'ai l'immense plaisir d'être avec vous. Et puis de l'autre côté, c'est l'endroit où on mange. Et donc, il y a même des écrivains comme Anatole France qui évoquent la délectation que représente la synthèse où on est à table et en même temps, on vient d'y travailler. Et disait-il, la table qui, tour à tour, chargée de doctolivres et de mets succulents, sert de support à la nourriture du corps et à celle de l'esprit. Voilà, et ben, tout ça, les Latins l'avaient, les Romains l'avaient ressenti. On est bien heureux de retrouver toutes ces résonances.
pas fous du tout, ces Romains.
Et non,
on peut enchaîner justement, toujours peut-être le lien, on sera à la table et plot aussi, avec le mot sale, sal salis, le sel. Alors la descendance, elle est faramineuse, on n'aura pas bien sûr le temps d'en parler, mais j'aimerais bien que, en dehors du mot salaire, de tous ces mots-là, qu'on parle un petit peu du mot saupiqué, dont vous parlez à la page 125, et de saupoudrer
oui,
aussi.
Alors... Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que c'est une ressource énorme. Et ce saupiqué, qui est donc une sauce piquante, en fait, hein, et qui remonte un petit peu au fait de relever au vin et à la crème. Et donc, c'est quelque chose de délicieux de s'apercevoir que la sauce vient du sel, parce que c'est quelque chose qui est salé. Et puis des mots très récents, comme, enfin très récents oui et non, mais qui sont à la mode, comme la résilience,
Oui.
hein, le fait de... Bon, alors là on change de racine, c'est le fait de saltarer, mais on voit bien qu'avec du saupiqué ou avec le sel, le grain de sel, bon, on peut avoir de la résilience. Donc on a là toute une série de mots qui sont quand même extrêmement porteurs. Et puis, bon, il y a évidemment le salaire, qui était d'abord une ration de sel, qui finalement était de l'argent pour... payer les soldats et acheter ce sel qui garantissait la survie, ou en tout cas la résistance des aliments. Donc on est là dans un monde qui ne cesse d'évoluer à partir de la racine latine, puisque salarié, salariat, politique salariale, convention salariale, beaucoup de gens ont oublié qu'il y avait le sel dedans. Je ne vais pas mettre mon grain de sel, mais parfois ça ne manque pas de charme de le rappeler.
Et ça ne manque pas de sel non plus. Alors, on est arrivé au bout de l'émission. Juste, j'ai évidemment pas parlé de tout ce que je voulais évoquer, tellement le livre est riche. Simplement, évoquer le mot mousca, la mouche et le bateau mouche. Et je vous demanderai très rapidement, pour conclure, de nous expliquer le lien entre la mouche et le bateau mouche. Et nous nous dirons au revoir.
Alors, mousca, la mouche, bon, on voit bien, le petit insecte, qui va donner d'ailleurs déformé mousqueto en espagnol, et qui arrivera au moustique. Mais au départ, c'était la mouche, mousquite au départ. Et donc, on se retrouve avec le bateau mouche. Alors, on pense que c'est parce qu'il est tout petit, sans doute, mais c'est pas ça l'origine. C'est parce qu'il avait été fait dans un quartier qui s'appelle Mouche, donc sur Lyon. Peut-être parce qu'il y avait des mouches, et ces bateaux mouches sont venus de Lyon. La mode en est venue de Lyon, et voilà comment on a les bateaux mouches. Mais on voit bien qu'il y a une très belle image dans tout ça, hein, et qu'on est toujours à la recherche finalement des origines des mots, et on retombe toujours sur le latin, parce que ce quartier s'appelait Mouche, parce que sans doute il y en avait, ou que le bateau était tout petit, donc pas plus gros qu'un paquebot et infiniment petit comme une mouche.
Ben nous n'aurons pas pris du tout la mouche, hein, on a appris des tas de choses avec vous. Je vous remercie beaucoup Jean, et on vous dit à une prochaine fois, j'espère.
Et ça sera un grand plaisir, il faut continuer.
Oui, continuons. Perseverare. Allez, voilà. Au revoir, bonne journée. Au revoir.
Merci beaucoup Martine.